Bonjour à toutes et à tous. Vous êtes bien sur Radio Prague. Aujourd'hui, dans cette émission du samedi, je vous propose trois rubriques consacrées à la culture, à vos courriers et à la littérature. On commence tout de suite, évidemment, par Culture sans frontières. Jean-Pierre Plaza est comédien et directeur artistique de la compagnie théâtrale Lux in Tenebris, basée à Marmande dans le Lot-et-Garonne. Depuis plusieurs années, il s'intéresse à l'œuvre dramatique de Václav Havel. Il a mis en scène notamment sa trilogie Audience, Vernissage et Pétition, ainsi que ses Lettres à Olga. Peu avant le décès de Václav Havel, il a même écrit une pièce sur et pour lui, intitulée Interrogatoire interrompu. Jean-Pierre Plaza, que Magdalena Hrozinkova a récemment pu rencontrer en France, est l'invité de ce nouveau numéro de Culture sans frontières.
Culture sans frontières.
Jean-Pierre Plaza, racontez-moi quelle était votre première rencontre avec, déjà votre rencontre avec Václav Havel et votre peut-être première rencontre avec son œuvre.
Je connaissais Monsieur Václav Havel en tant que comme politique et dissident surtout. Je savais qu'il était dramaturge, mais je n'avais jamais rien lu. Et puis il y a 11 ans de cela, à peu près, je suis allé dans une bibliothèque, je suis tombé sur Audience, Vernissage et Pétition, sa trilogie. J'ai lu et là j'ai eu un coup de foudre pour ces pièces-là. Et la troupe professionnelle Lux in Tenebris a décidé de travailler sur les dissidents et de commencer par M. Václav Havel. Et là, nous avons décidé de participer au Festival d'Avignon. Et ça a été un véritable succès.
Donc c'était avec
Audience, la première année.
D'abord. Oui, en quelle année?
C'était en 2005. En 2005, et là, on a eu un gros succès. Et un des, peut-être, des journalistes de Radio Prague, qui s'appelle Peter Pfeffer, est venu me voir et a trouvé l'ambiance fantastique. Et il a été tellement épaté qu'en rentrant en Tchéquie, il est allé voir peut-être M. Zeman, le directeur du théâtre de Hradec Králové. Et le directeur est venu l'année suivante. Et là, il a été, ou 2 ans après, il a été enthousiaste lui aussi et il nous a fait venir donc à Hradec
Králové
en 2008.
Un grand festival
oui,
de théâtre.
Magnifique. Mm-hmm. Nous avons été reçus par des princes, reçus par Monsieur Václav Havel. Et là, ça a été un grand bonheur parce que.
Comment s'est passée cette rencontre?
Ah oui, avec beaucoup d'émotion pour moi. J'étais comme un enfant devant une vitrine, quoi. Il est tellement, tellement gentil, tellement. Il a une aura extraordinaire, quoi, je veux dire, d'humanité. Et donc, ça a été tellement facile. C'était le premier d'abord à se lever à la fin de chaque pièce. Nous avons joué Pétition et vernissage, et à chaque fois il s'est levé le premier, il nous a félicité, nous disant que la France était le berceau du théâtre de l'absurde, et qu'il n'y avait que des Français pour pouvoir monter ses pièces, et alors là c'était beau, parce qu'en même temps il était accompagné de ses amis, Andrei Krob, hein, son ami metteur en scène qui a monté toutes ses pièces, qui ne sait pas un mot de français, mais il est rentré tout de suite, il est monté dans un petit salon qui nous était réservé avec les gens qui aime le théâtre, où Václav Havel nous attendait, et Krob s'est écrié « Magnifique !» etc. Et puis il y avait Bohdan Holomicek, le photographe qui nous prenait sans cesse avec des sourires, des connivences. On a bu du bon vin, de mon ravi. On a gardé un souvenir immense. En revenant ici, on a continué notre travail sur lui. Donc les trois pièces ont été montées. Puis j'ai décidé de monter plus tard Lettre à Olga, en m'appuyant sur des lettres qu'il a écrites évidemment pendant qu'il était en prison. Et j'ai décidé de réaliser un film à la fois de fiction et à la fois sur la réalité, sur des vraies images, comme il fait lui dans ses pièces. Il mélange à la fois la fiction, etc. Et puis encore, on m'a repéré en Avignon. Et puis au premier festival mondial de Brno en 2010... j'ai été sélectionné pour représenter la France avec ça. Monsieur Václav Havel était là encore.
Donc c'était votre deuxième rencontre.
Ouais. Tout perdu dans son petit jean, fatigué, très fatigué. Il n'avait pas le droit de venir à Brno, mais il a une forte tête quand même. Mm-hmm. Il était là. On a vu ces trois pièces, audience, pétition et vernissage, jouées par les comédiens d'André Krob en plein air, près de la citadelle de Brno. Et ensuite, évidemment, je suis allé jouer donc Lettre Olga au théâtre de Loi au bout de la ficelle.
Alors, je sais pas comment ça. Rusana Provasku.
Oui, sans doute, c'est un très beau théâtre. Très beau théâtre d'art et d'essai, où on fait des belles choses. J'ai vécu avec lui des choses extraordinaires. Des pièces de théâtre remaniées, rejouées dans les combles de ce théâtre et aussi dans les caves. Des comédiens qui sautaient au-dessus des poutrelles en fer qui. Des théâtres improvisés, il y a que chez vous que ça puisse exister, ça. Mais c'est magnifique, un vent de liberté dès qu'il s'agit du théâtre, qu'on n'a pas en France, ça reste trop un petit peu académique ici, il faut qu'il y ait la sécurité et tout. Là-bas, non.
Et parlez-moi un peu de ce spectacle, Lettre à Olga. Oui. Vous le jouez toujours ?
Toujours. Hein.
Comment avez-vous choisi les lettres qui figurent dans votre pièce ?
J'ai beaucoup lu,
évidemment. C'est difficile de choisir.
C'est difficile de choisir. Alors j'ai évité, évidemment, les thèmes philosophiques. Parce que ça serait ennuyeux. Alors j'ai choisi des lettres sur le premier jour, la première lettre. Ensuite, des lettres où il recommande à sa femme de ne pas rester seule. Des lettres où il est dans la prison sur un tas de ferrailles, il entend des enfants. Ça, c'est magnifique. Hein, derrière, et puis un élan de liberté, de jouissance, même juste de. Ça, c'est beau. Il y a aussi une lettre de révolte, parce qu'on va le changer de prison, il est très mal. Et aussi contre ses camarades qui parfois ne sont pas à la hauteur. Son soir de Noël, hein, où il prend de l'aspirine à la place de champagne. Hein, faut que ça pétille un peu. Après, j'ai pris une lettre sur L'étranger d'Albert Camus. Voilà, et ensuite, enfin, plusieurs, voilà, un peu sur lui, sur ses douleurs, très peu quand même, j'ai pas voulu parce qu'il en parle très peu, il reste très modeste. Par contre...
Et plein d'espoir aussi dans...
Oui, c'est quelqu'un de fabuleux, quoi. Et les gens, quand ils écoutent, parce qu'en principe, je m'en vais pas après avoir joué, je reste sur scène. Et j'ai un dialogue avec le public. Ils me posent des questions, j'essaie de répondre quand je sais, évidemment. Et voilà. Et donc ça devient un vrai plaisir. On rentre vraiment dans l'intimité de cet auteur, de cet homme magnifique, cet homme engagé. Et c'est le théâtre engagé aussi que j'aime. Donc c'est pour ça que Václav Havel, c'est mon copain. Voilà. Et là, j'ai écrit une pièce pour lui. J'ai écrit une pièce pour lui qui s'appelle « Interrogatoire interrompu » et non pas à distance. Que je lui ai offert pour ses 75 ans, que j'ai envoyé en Tchéquie. Et je ne sais pas s'il a lu ou pas. Je ne sais pas si ça a été traduit ou pas. Voilà. Mais je suis en train de la monter.
Qu'est-ce qu'elle raconte, cette pièce ?
Qu'est-ce qu'elle raconte ? Alors, je me suis inspiré évidemment de l'interrogatoire à distance, hein, de Avzala. Voilà, c'est ça. Oui, c'est ça, un entretien et non pas un écrit. Et j'imaginais que Avzala, qui était en Allemagne de l'Ouest, envoyait des cassettes avec des questions à Václav Havel et que Václav Havel répondait en s'interviewant sur des cassettes, un échange de cassettes. Et comme je sais que Václav Havel a toujours peur quand il écrit de perdre ses choses, qu'on les lui vole, que ça brûle, etc., je l'ai mis dans une espèce de tension nerveuse et de peur. Voilà. Donc, il est dans son appartement, il est fatigué apparemment, il est habillé avec un peignoir, et puis, il est, au début, il y a un prologue qui est très sympathique, où on entend l'hymne russe qu'il éteint, et, etc. Il écrit une lettre à un ami peintre, et puis tout d'un coup, il se met à enregistrer, à la première question posée, voilà, sur son enfance dorée, et il commence à parler, et tout d'un coup, il va être dérangé par la sonnerie. Ça va être le concierge. Et ce concierge, il est gentil, mais en même temps, il met son nez un peu partout. Ça. Mais Václav Havel est tellement poli, il le reçoit, mais en même temps, il le craint, il se demande. Bon, Voilà. Et à chaque fois qu'il entendra la sonnette, il va se précipiter sur un comprimé, boire un verre d'eau, essayer de voir de planquer sa cassette, et après d'oublier peut-être où il l'a placée, et sans arrêt toute la pièce, il va être dérangé. Voilà.
Et c'est vous qui jouez Václav Havel, je suppose.
Oui, mais je ne devais pas le jouer. Je voulais être le metteur en scène cette fois-ci. J'avais trouvé un comédien sur Avignon que j'aimais beaucoup et que je trouvais intéressant. Et puis il m'a dit oui. Et puis 10 jours après, il m'a dit j'ai peur de ne pas pouvoir faire correctement parce que j'ai beaucoup de travail. Mm-hmm. Et là, je me suis dit allez, vas-y, c'est toi qui fais Václav Havel. Et voilà, je fais Václav Havel et je suis très heureux.
Jean-Pierre Plaza, est-ce que vous n'avez pas envie de monter la dernière pièce de Václav Havel sur le départ?
Ah oui, bien sûr. Et c'est surtout Marie-France qui voulait monter cette pièce-là. 17 comédiens, c'était fantastique. En plus, nous avons vu la pièce à Hadas Králové. C'était magnifique avec des acteurs fabuleux. C'était très beau et très fort, très amusant. Et en même temps, il est dur aussi. On apprend des choses hein, sur le pouvoir. Et évidemment, on a reçu la première traduction. Elle n'était même pas encore le livre n'était même pas imprimé en tchéquie, hein. Et donc on a reçu ça, on l'a lu, et évidemment j'étais empressé de le lire, et on a trouvé ça fabuleux. Et après on s'est dit mais comment monter une pièce aujourd'hui avec 17 comédiens, avec des vrais rôles? Donc l'envie était là, hein, et nous sommes allés voir l'institution française, hein, pour nous aider à monter ce projet-là, et ils nous ont dit c'est pas possible. C'est un trop gros budget, on ne peut pas. Donc, nous avons ça sous le coude. Le jour où les gens voudront bien hein, nous aider, peut-être des comédiens qui voudront aussi peut-être monter cette pièce avec nous, ben peut-être qu'on le fera, on va croiser les doigts, puisque avec Václav Havel, on a tellement de bonheur et tellement de chance que peut-être sur le départ, on en aura aussi.
Après cet entretien très intéressant avec Jean-Pierre Plaza, comédien et directeur artistique de la compagnie théâtrale Lux in Tenebris, je vous propose tout de suite de passer à notre rubrique suivante qui est consacrée à vos courriers.
Courrier des auditeurs.
Les lettres, les courriels et les cartes que nous avons reçues de vous au cours des dernières semaines montrent que vous attendez impatiemment les vacances et que pour certains d'entre vous, les vacances ont déjà commencé.
Les vacances qui approchent seront donc aussi le sujet principal de cette émission que nous avons réservée à vos lettres, vos opinions et vos suggestions. Elle a été préparée et vous sera présentée par Jelka Gisiblova et Václav Richter. Bonjour chers amis, lisons-nous sur la carte représentant de belles vues du bassin d'Arcachon qui nous a été adressée par notre auditeur Philippe Marsan de Biganos en France. Bientôt les rencontres de la radio dans le Perche, puis les fêtes de l'été à Marche Prime près de chez moi. Pouvez-vous m'envoyer quelques plaquettes et autocollants Radio Prague?
Une autre carte et plusieurs rapports d'écoute nous a été adressés par Paul Jamais d'Argenteuil en France. Sur la carte représentant quelques paysages romantiques du sud tunisien, nous lisons.
Chers amis, de la semaine que je viens de passer dans le sud tunisien, Djerba et Tozeur, je vous ai rapporté ces quelques vues pour accompagner mes derniers rapports d'écoute. Je vous en souhaite bonne réception. Avec mes amitiés.
Dans la dernière lettre de notre auditeur assidu Christian Guy Baudeux de Tente en France, nous avons trouvé une réponse juste à nos questions du mois. Évidemment, nous ne pouvons pas vous dévoiler quelle est la réponse à notre question, mais nous pouvons citer le reste de la lettre. Christian Guy Baudeux écrit.
Toujours à l'écoute de vos émissions, je participe au concours de ce mois de juin où la chaleur semble enfin arriver sur la Côte d'Azur. J'ai passé le week-end dernier en Allemagne entre Berlin et Leipzig et je peux dire que ce n'était pas vraiment un temps de printemps. Ce week-end allemand était une prémisse des prochaines vacances d'été. Aussi, je viens vous poser quelques questions sur les envies de vacances des Tchèques. En général, à quelle période les Tchèques prennent-ils des vacances? En ces périodes de crise, quel pourcentage des Tchèques a prévu de partir pendant ces mois d'été? Quel est le style d'hébergement préféré des Tchèques? Hôtel, location, camping, en famille ou alors en résidence secondaire d'été?
Cet été, près de 4 millions de Tchèques, donc 40% de l'ensemble de la population, passeront leurs vacances à l'étranger. Ce sera traditionnellement la Croatie qui attirera le plus grand nombre de touristes tchèques, suivi de la Slovaquie, qui est également une destination favorite des Tchèques. Nos touristes aiment revenir dans les endroits et les pays qu'ils connaissent déjà. Plus de la moitié de tous les touristes préfèrent les voyages organisés. Les agences de voyage sont unanimes à constater cependant que les clients tchèques sont de plus en plus exigeants. Malgré la crise, ils demandent à être hébergés de plus en plus confortablement et dans des hôtels de qualité et sont toujours plus nombreux à être séduits par la formule all-inclusif. Selon Tomáš Brejcha de l'agence de voyage Cedoc, les clients manifestent également un intérêt croissant pour les séjours en montagne et dans des stations thermales et pour les courts séjours appelés Euroweekend. Toujours est-il cependant donc une grande partie des Tchèques passent leurs vacances dans leur pays et préfèrent se réfugier dans leur résidence secondaire, leur maison de campagne et leur chata.
Nous aimerions attirer votre attention également sur les activités de certains de nos auditeurs en France. Comme nous vous avons déjà informé dans notre dernier courrier des auditeurs, la radio DX Club d'Auvergne organise cet été, du 1er juillet au 26 octobre 2012, un concours pour encourager l'écoute des programmes en langue française diffusés par les radios internationales dans un esprit d'amitié et de paix entre les peuples. Pour plus d'informations, adressez-vous directement à Radio DX Club d'Auvergne, centre municipal P&M Curie, 2 bis rue du Cloperet, 6300 Clermont-Ferrand. Et avant de vous quitter, nous allons vous proposer de participer à une enquête de la radio publique tchèque et de répondre aussi à la question du mois de Radio Prague dont il a déjà été question dans vos lettres.
La radio publique tchèque lance une enquête intitulée « Le Tchèque, la Tchèque de l'étranger » de l'année 2012. C'est la personnalité tchèque qui vit à l'étranger et remportera le plus de voix de votre part qui se placera en première position dans cette enquête. Avant d'organiser le vote, nous vous prions de nous adresser les nominations des personnes de votre choix. Écrivez-nous les noms des Tchèques vivant à l'étranger et ajoutez les raisons pour lesquelles il ou elle devrait gagner. Vous pouvez choisir les personnes nées de parents tchèques à l'étranger ainsi que des exilés partis de Tchécoslovaquie ou de République tchèque avant ou après la chute du communisme en 1989. Choisissez les personnes ayant obtenu d'importants succès dans leur travail ou ceux qui méritent d'être distingués pour les activités de toute leur vie. Vous devez choisir des personnes vivantes. Aidez-nous à trouver à l'étranger la Tchèque ou le Tchèque de l'année. L'enquête est une contribution de la radio publique tchèque à la série des manifestations organisées sous le titre « Les Tchèques dans le monde, les festivités de la journée de l'État tchèque 2012 ».
Et pour terminer encore notre question du mois, testez vos connaissances sur la République tchèque chaque premier jour du mois. Vous trouverez une nouvelle question à notre concours parmi les bonnes réponses. 6 vainqueurs seront tirés au sort et recevront un prix. Envoyez vos réponses avant le 30 juin à l'adresse suivante cr@radio.cz. Vous trouverez le nom des vainqueurs sur cette page. La question du mois de juin est la suivante. Comment s'appelait le président américain qui a activement soutenu la création de la nouvelle Tchécoslovaquie, qui a rencontré Tomáš Garrigue Masaryk et qui, depuis l'automne dernier, a sa statue en face du bâtiment d'une gare de Prague? La bonne réponse de la question du mois de mai était Rodolphe II.
Et c'est la fin de cette émission réservée à vos lettres, vos opinions et vos suggestions.
Merci à tous ceux qui nous ont écrit. À bientôt.
Les lecteurs tchèques disposent d'une excellente traduction du célèbre recueil des contes des Mille et Une Nuits. Grâce à une réédition, une nouvelle génération de lecteurs tchèques a eu l'occasion de savourer les charmes de ce chef-d'œuvre de la littérature arabe et mondiale. Voici la reprise d'une émission que Václav Richter a consacrée en janvier 2011 à cette réédition et au traducteur tchèque de ces contes, Félix Tauer. Thank you.
Rencontre littéraire. L'évolution des mœurs aidant, le lecteur tchèque dispose désormais d'un livre qui traite ouvertement d'un thème considéré jadis comme tabou. La monographie intitulée « L'homosexualité dans l'histoire de la culture tchèque », publiée par les éditions Academia en 2011, cherche à situer l'homosexualité dans son contexte culturel et à jeter un regard objectif sur un phénomène auquel la société réagissait jadis par la condamnation, le rejet ou le silence. Le livre est l'œuvre d'un collectif d'auteurs dirigé par l'historien de la littérature, Martin Putna, qui a rédigé également plusieurs articles essentiels de cette monographie. Il explique la genèse de cet ouvrage.
Le livre a vu le jour grâce à une conférence qui a été organisée en 2009 à la Faculté des sciences humaines de l'Université Charles. Et comme il arrive à ce genre de manifestation, on a eu l'idée de publier un recueil de travaux de cette conférence. Moi, qui n'aime pas ce genre de recueil, je me suis dit, puisqu'il y a ici tant de chercheurs de diverses disciplines qui s'occupent de ce thème, cela vaudrait la peine de publier quelque chose de plus substantiel. Et alors, j'ai eu l'idée de publier, au lieu d'un recueil de travaux, une véritable monographie collective, une véritable histoire de ce thème dans la culture tchèque.
Martin Putna s'est donc adressé aux participants à la conférence qui se sont montrés dans leur grande majorité favorables à cette idée et ont accepté de rédiger différents chapitres d'une monographie collective qui devrait couvrir, dans la mesure des possibilités et de l'état actuel des recherches, l'ensemble de l'histoire du thème de l'homosexualité dans la culture tchèque. Les auteurs du livre ne voulaient cependant pas nourrir la curiosité malsaine d'amateurs de sensations et de scandales. Martin Putna insiste sur un autre objectif du livre.
Ceux qui s'imaginent que ce livre est un annuaire téléphonique de noms et que nous avons cherché à révéler qui a été homosexuel, qui ne l'a pas été ou quels artistes nous considérons comme homosexuels seront terriblement déçus, car c'est justement l'inverse de l'objectif de nos recherches. Nous nous sommes intéressés à la création et non pas aux biographies.
Pour commencer, Martin Putna pose une question méthodologique. Sans trancher en faveur de telle ou telle méthode, il compare les deux approches différentes des chercheurs qui abordent cette problématique, l'essentialisme et le constructionnisme. Selon la conception essentialiste, l'essence de l'homosexualité a été toujours la même pendant toute l'histoire de l'humanité. Les partisans de la conception constructionniste estiment, au contraire, que l'homosexualité actuelle n'est qu'une des nombreuses formes de ce phénomène qui a changé et évolué au cours de l'histoire. Le livre se divise en trois parties. La première est la plus substantielle, est consacrée à la littérature, la deuxième cherche à saisir le thème homosexuel dans les arts plastiques, et finalement la troisième couvre le domaine du théâtre et du cinéma. Dans une étude consacrée à la littérature, Martin Putna étudie la création homoérotique et trouve les motifs de ce genre dans les œuvres de nombreux hommes et femmes de lettres, dont les poètes Julius Zeyer et Otokar Březina, dans les livres pour enfants de l'écrivain Jaroslav Foglar, dans les romans angoissants de Ladislav Fuchs, et même dans les œuvres de Jaroslav Hašek, auteur du Brave soldat Švejk. Il distingue trois approches créatrices du thème, la sublimation, la stylisation et la manifestation. Dans la première catégorie, il y a des auteurs qui ne peuvent pas ou ne veulent pas parler de l'homosexualité et cherchent donc d'autres voies pour l'évoquer par la sublimation, l'allusion et le camouflage. Les auteurs de la deuxième catégorie évoquent le thème explicitement, mais situent ces manifestations par la voie de la stylisation dans le temps révolu pour le rendre plus acceptable. Et finalement, dans la troisième catégorie, la manifestation, il y a les auteurs qui parlent ouvertement de l'homosexualité et la situent dans le contexte actuel et civil. La monographie révèle que le thème de l'homosexualité dans la culture tchèque et ses manifestations dépendent beaucoup des influences étrangères. Dans la première moitié du XXe siècle, la culture tchèque est encore beaucoup liée avec les milieux culturels des pays de langue allemande. Par contre, dans la seconde moitié, et notamment vers la fin du XXe siècle, ce sont les influences anglo-américaines qui prédominent. Ces influences se manifestent également dans la réception et la perception de la thématique homosexuelle dans la littérature, les arts et la vie culturelle tchèque. Cependant, selon Martin Putna, la Tchécoslovaquie de cette période-là n'est pas un simple épigone des modèles occidentaux, et la façon dont elle reçoit l'homosexualité au niveau culturel ne manque pas de traits spécifiques.
Ve 20. století a konec konců někdy ve století dřívějších
Au XXe siècle et même dans les siècles précédents, nous trouvons un phénomène que j'appellerais le rebelle homosexuel, rebelle artiste et homosexuel, comme Pier Paolo Pasolini, Oscar Wilde, Michel Foucault, ou toute une série d'autres comme Klaus Mann, Rainer Werner Fassbinder. Il s'agit de personnalités provocatrices et souvent très gauchistes, révolutionnaires et parfois communistes. Aujourd'hui, nous les trouvons cependant plutôt parmi les verts et non parmi les communistes.
Martin Putna s'interroge donc pourquoi ce phénomène manque presque complètement dans la culture tchèque. D'après lui, au cours du XXe siècle, il n'y avait pas dans les pays de langue tchèque d'espace pour un phénomène de ce genre en raison des régimes totalitaires qui ne permettaient pas à des artistes et des penseurs homosexuels de s'exprimer. L'élément homosexuel s'est pourtant manifesté même dans le milieu tchèque, mais d'une façon moins spectaculaire et plus discrète.
Na druhé straně my máme
D'autre part, nous avons une galerie remarquable de ce que j'appelle conservateurs homosexuels. Ce sont des artistes qui, dans une certaine mesure, expriment plus ou moins ouvertement des sentiments homoérotiques et les traitent plus ou moins dans leurs œuvres. Ce sont cependant, en même temps, des gens d'orientation catholique, monarchiste, conservatrice, ruraliste. Et ces deux choses se marient chez eux. Cela ne doit pas être nécessairement que le catholicisme. C'est une longue tradition qui est très particulière et que je n'ai retrouvée dans aucune autre littérature européenne.
A kterou v žádné jiné evropské literatuře v podstatě jsem nenalezl.
Martin Putna donne un exemple, Jiří Langer, l'unique écrivain tchèque de langue hébraïque. Ce fervent de la région juive, profondément empreint du judaïsme hassidique, auteur entre autres du recueil de nouvelles mystiques sur les rabbins de Galicie intitulé « Les Neuf Portes », s'intéressait aussi à la tradition homosexuelle dans l'histoire juive et était lui-même auteur des poésies hébraïques d'inspiration homoérotique. Le livre de presque 500 pages montre l'ampleur du phénomène sans avoir la prétention de le saisir dans son ensemble. Les auteurs de différents articles soulignent à plusieurs reprises que c'est la qualité artistique qui doit être le critère principal de l'appréciation des œuvres traitant le thème homosexuel. Leur ouvrage illustre également le fait qu'après la révolution sexuelle et l'effondrement des tabous, le thème homosexuel perd peu à peu son caractère scandaleux, se dilue dans l'ensemble de la création et est accepté ou au moins toléré par l'ensemble des lecteurs et des amateurs des arts. Apostropher le grand public, c'est sans doute aussi l'ambition de nombreux artistes qui traitent ce thème. Dans ce contexte, Martin Putna cite l'écrivain français Dominique Fernandez, qui a écrit dans la préface pour l'anthologie des amours masculines de Michel Larivière. Quel plaisir y a-t-il à conquérir quelqu'un qui est du même bord que vous ? Ainsi, l'écrivain homosexuel n'est heureux, ne devrait être heureux, que lorsque ses livres charment et émeuvent les lecteurs de l'autre famille, au lieu de circuler exclusivement à l'intérieur du ghetto.
Voilà, cette émission du samedi tire progressivement à sa fin. Je vous rappelle évidemment que tous ces sujets, vous pouvez les retrouver sur notre site internet, le www.radio.cz/fr. Cette émission a été proposée aujourd'hui par Anna Kubishta et toute l'équipe de Radio Prague. Retrouvez dès dimanche notre émission musicale. Merci de votre fidélité. Bon vent, ahoy.